de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Ashraf Ghani présente ses excuses au peuple afghan. La Corée du Nord organise un défilé militaire en soirée. Novavax commence à tester le vaccin combiné contre la grippe et le vaccin COVID-19. Le Japon veut étendre les restrictions d'urgence liées au COVID-19. 3500 réfugiés afghans arrivent en Australie. La réunion Indonésie-Australie touche l'Afghanistan et Birmanie. La communauté internationale estime que l'Indonésie est une destination touristique sûre. Voici le journal complet. L'ancien président afghan Ashraf Ghani, qui a fui en août, présente ses excuses au peuple afghan pour la chute soudaine de son gouvernement. Ghani, qui a présenté ses excuses mercredi, a nié avoir emporté des millions de dollars avec lui. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Ghani a déclaré qu'il avait quitté l'Afghanistan à la demande de son équipe de sécurité. Ghani pense que son départ est le seul moyen de faire taire les armes et de sauver Kaboul et ses 6 millions de citoyens. Ghani a également démenti les informations selon lesquelles il aurait quitté l'Afghanistan avec des millions de dollars en espèces. La Corée du Nord organisera un défilé militaire la nuit, le type de défilé qu'elle a organisé dans le passé pour présenter de nouveaux matériels militaires, y compris de gros missiles balistiques. Cela a été rapporté par les médias sud-coréens et d'autres médias se concentrant sur la Corée du Nord jeudi, cité par Reuters. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a déclaré qu'un défilé militaire aurait eu lieu à Pyongyang le 9 septembre. Pendant ce temps, la publication en ligne spécialisée NK News a cité plusieurs sources bien informées selon lesquelles le défilé militaire commencerait à minuit heure locale le 9 septembre, jour de la fête nationale de la Corée du Nord. Le développeur de vaccin Novavax Inc. a déclaré qu'il avait commencé des recherches à un stade précoce pour tester un vaccin combiné contre la grippe et un vaccin COVID-19 contre les niveaux immunitaires. Les tests seront effectués en Australie après de 640 adultes en bonne santé âgés de 5 ans à 70 ans et qui ont des antécédents d'infection par le coronavirus ou qui ont été vaccinés contre COVID-19 au moins 8 semaines auparavant. C'est ce qu'a déclaré Gregory Glenn, directeur de la recherche et du développement de Novavax, dans un communiqué. Glenn a déclaré que la combinaison des deux vaccins conduirait probablement à une plus grande efficacité du système de santé et offrirait un niveau élevé de protection contre la COVID-19 et la grippe avec une seule dose d'injection. Novavax espère que les résultats des premières étapes des tests seront connus au premier semestre 2022. Le gouvernement japonais a déclaré jeudi 9 septembre qu'il prolongerait les restrictions d'urgence liées au COVID-19 à Tokyo et dans d'autres régions jusqu'à la fin de ce mois pour freiner les infections et empêcher les hôpitaux d'être submergés. Rapporté par Reuters jeudi 9 septembre, le Japon est aux prises avec la cinquième vague du virus et a prolongé le mois dernier ses restrictions à long terme jusqu'au 12 septembre. Cependant, le nombre de cas graves et la pression sur le système médical ne sont pas suffisamment relâchés à Tokyo et au-delà pour permettre la levée des restrictions. Le gouvernement prolongera la mesure jusqu'au 30 septembre, y compris pour Osaka. Le premier ministre australien Scott Morrison a déclaré jeudi que l'Australie avait accepté plus de 3500 réfugiés afghans, principalement des femmes et des enfants, après que les talibans ont pris le contrôle du pays le mois dernier. L'évacuation internationale par voie aérienne a commencé le 14 août lorsque le groupe militant a pris le contrôle de Kaboul après avoir pris le contrôle de vaste étendue de l'Afghanistan. Dans le cadre de cet effort, l'Australie a évacué 4100 ressortissants et citoyens afghans munis de visa, bien que certaines personnes ayant la double nationalité aient choisi d'aller ailleurs. De nombreux réfugiés ont été transportés par avion vers les Émirats arabes unis pour attendre leur réinstallation en Australie. Morrison a déclaré que le dernier vol était arrivé mercredi soir. La ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Payne, et le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, ont rencontré la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, au bâtiment Pancasila, Jakarta, jeudi 9 septembre. Les quatre ministres ont discuté de diverses questions liées au de paix et à la région, ainsi qu'au niveau mondial, notamment l'Afghanistan et la Birmanie. La ministre Payne, lors d'une conférence de presse avec les ministres après la réunion, a déclaré que l'Indonésie, en tant que pays à majorité musulmane, a un rôle important et une voix forte dans des questions comme l'Afghanistan. Elle a également demandé à l'Indonésie d'exprimer les droits des femmes dans le pays en conflit. Pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré qu'actuellement, l'Indonésie surveille toujours la situation, y compris la formation d'un gouvernement intérimaire en Afghanistan. L'Indonésie continue également de souligner l'importance de mettre en place le gouvernement inclusif en Afghanistan, désormais contrôlé par les talibans. La ministre Retno a souligné que l'Indonésie espère que l'Afghanistan ne sera pas utilisé comme terrain de pépinière et d'entraînement pour les organisations terroristes et les activités qui menacent la paix et la stabilité dans la région. L'Indonésie espère également que les droits de l'homme, en particulier les droits des femmes et des filles, continueront d'être respectés et promus. L'Indonésie a été choisie comme hôte de la réunion annuelle du Forum mondial du tourisme ou GTF 2021 qui se tiendra à Jakarta les 15 et 16 septembre 2021. Cela a été transmis par le président du Forum indonésien du tourisme ITF, Sapta Nirwandar, dans sa déclaration jeudi. Selon Sapta, l'élection de l'Indonésie en tant qu'hôte alors que le monde entier lutte toujours contre la pandémie mondiale de COVID-19 montre que la confiance de la communauté internationale en Indonésie en tant que destination touristique sûre est toujours forte. Le Forum mondial du tourisme GTF 2021, intitulé Leader Summit Asia, a réuni 100 intervenants internationaux. Cet événement a été soutenu par le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative, le ministère de l'agriculture, le ministère indonésien des affaires étrangères et le gouvernement provincial de Jakarta, et les associations de l'industrie du tourisme. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Yeah.
Chers amis de l'antenne, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et en pour le titre, le cabinet des talibans n'est pas encore favorable aux femmes. Pas même au mois depuis que le nouveau gouvernement taliban a pris le contrôle de l'Afghanistan le 15 août 2021, le cabinet formé et annoncé mercredi 7 septembre que heure locale par les talibans était considéré par beaucoup de partis comme un cabinet conservateur et non inclusif. Le cabinet était considéré comme n'ayant tenu la promesse des talibans en déclarant sa victoire en Afghanistan. Auparavant, les talibans avaient promis de former un gouvernement inclusif et représentatif, mais par les 33 responsables de leur nouveau gouvernement, pas un seul n'est une femme. De plus, tous sont des membres ou des personnalités ayant des relations avec les talibans. Citant les entreprises Antara, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale CSNS iranien, Ali Samkhani, a déclaré que le gouvernement taliban n'a clairement montré aucun respect pour les droits humains, en particulier les femmes. Par exemple, ils interdisent aux femmes afghanes, y compris l'équipe de cricket du pays, de pratiquer des activités sportives. En outre, le taliban n'autorise pas non plus les manifestations et autres manifestations à moins d'avoir l'autorisation des autorités. Téhéran a déjà appelé à la formation d'un gouvernement inclusif en Afghanistan avec la participation de tous les groupes politiques et ethniques du pays. Ali Samkhani s'est également dit préoccupé par l'ingérence étrangère et l'utilisation de moyens militaires pour répondre aux demandes des divers groupes ethniques d'Afghanistan. Outre Téhéran, un certain nombre de pays comme les États-Unis, l'Union européenne, le Qatar et l'Indonésie ont déclaré que le nouveau gouvernement formé par les talibans n'avait pas tenu sa promesse de construire un gouvernement inclusif, un gouvernement capable d'accepter diverses formes de diversité et de différence. L'absence des femmes dans le gouvernement afghan soulève certainement des questions sur l'engagement des talibans à protéger et à respecter les droits des femmes et des filles. L'engagement qui était véhiculé est clairement un mauvais signal quant à leur prétendu l'objectif de construire une société inclusive, forte et prospère. Le monde attend que les talibans réalisent leurs promesses et leurs engagements envers le droit international, tout en espérant que la société afghane deviendra une société ouverte. Le gouvernement taliban ne devrait pas protéger ou devenir une base pour des groupes terroristes à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Afghanistan. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جن شوي بي تاي كو جو يي فانغ شي سين سين غوانغ جوان بينغ دو فاي يان د تشوان بو وو د كو جو باو هو ني يي د كو جو باو هو وو
ايفيتي لا ديفوسيون ديل كوروناويروس كورتار لا كادينا د ترانسميسيون usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bon. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 septembre. Le 10 septembre 1912, le Sarekat Dagang Islamia, sous la direction de Chokro Aminoto, a changé son nom à Sarekat Islam. L'organisation de Sarekat Dagang Islam, ou SDI, était à l'origine une association de commerçants islamiques. Cette organisation a été créée par Haji Samanhudi à Surakarta le 16 octobre 1905, dans le but initial de rassembler les commerçants musulmans indigènes, notamment les commerçants de batik, afin qu'ils puissent rivaliser avec les grands commerçants chinois. Le 10 septembre 1912, on a changé le nom de SDI en Sarekat Islam, sous la direction de Haji Umar Said Chokro Aminoto. On l'a fait pour que l'organisation ne soit pas seulement engagée dans l'économie, mais aussi dans d'autres domaines tels que la politique. Le 10 septembre 1945, on a fondé l'Agence marine de sécurité du peuple en tant que précurseur de la marine indonésienne. L'Agence de sécurité du peuple, ou BKR, est une agence qui assure la sécurité avec le peuple et les agences d'État. L'Agence de sécurité du peuple a été formée par le comité préparatoire pour l'indépendance de l'Indonésie. Les marines vétérans ou marines néerlandaises et marines impériales japonaises ont pris l'initiative de maintenir l'ordre et la sécurité dans chaque port en établissant le BKR Laut Pusat le 10 septembre 1945. Le 10 septembre 1974, la Guinée-Bissau est devenue indépendante du Portugal. La Guinée-Bissau fait partie du royaume de Kabou, qui fait partie de l'Empire du Mali en Afrique de l'Ouest. Une partie de cet empire a duré jusqu'au XVIIIe siècle et plusieurs autres parties faisaient partie de l'Empire portugais. Plus tard, la Guinée-Bissau est devenue une partie de la colonie portugaise guinéenne du Portugal au XIXe siècle. Elle a déclaré son indépendance le 24 septembre 1973. Puis, on l'a admis le 10 septembre 1974, son nom de sa capitale, Bissau, on l'a ajouté au nom du pays pour éviter une similitude de nom avec la Guinée voisine. Puis le nom du pays est devenu la République de Guinée-Bissau. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz international de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Got me going crazy. He cast a spell, but I never forget it's your smell. It's like flowers and the ocean. That is something that you're hiding. I just wanna.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie ayant pour le titre... Le ministère des Transports s'efforce d'augmenter le TKDN dans les projets de coopération avec le Japon. Le ministère des Transports cherche à augmenter le niveau de composante domestique ou TKDN dans les projets d'infrastructure de transport en collaboration avec le gouvernement japonais. Le ministère des Transports, Budi Karya Sumadi, lors d'une conférence de presse en ligne en marge de sa visite au Japon mardi le 7 septembre, a déclaré qu'au cours des trois dernières années, les investissements japonais en Indonésie avaient considérablement augmenté. Il a également fait le rapprochement pour que TKDN dans la coopération avec le Japon continue de croître. Budi Karya Sumadi expliquait que lors de la réunion du gouvernement à gouvernement ou GAG avec le gouvernement du Japon, les deux pays avaient la même vision d'accélérer la coopération du gouvernement à entreprise ou GAB et d'entreprise à entreprise BAB dans un nombre de projets de développement d'infrastructures de transport en Indonésie. Concernant la poursuite du projet de développement de transport en commun rapide MRT, le ministère des Transports a demandé que la construction soit réalisée rapidement. Le ministère des Transports a déclaré que le gouvernement souhaite que le projet MRT devienne un projet monumental qui puisse donner du sens à la communauté ainsi qu'à la relation entre les deux pays. En outre, l'Indonésie se félicite d'entrer le Japon à participer au projet de coopération gouvernementale avec une entité commerciale ou KBU pour la construction du Proving Ground à Bekasi dans l'ouest de Java. Le projet est actuellement en phase d'appel d'offres. Deux sociétés japonaises participent à la vente aux enchères. Budi Karya Sumadi a également expliqué un certain nombre de potentiels dans le secteur portuaire, y compris la construction du port d'Ambon dans la partie orientale de l'Indonésie, qui a un potentiel de pêche et de cargaison, du port de Palembang en termes de cargaison, de pétrole et de gaz, du port de Natuna qui deviendra le centre de l'industrie de la pêche, Gorontalo en collaboration avec les produits agricoles et le plan pour intégrer un certain nombre de ports à Batam. Il a souligné que le gouvernement indonésien s'est engagé à continuer d'accélérer le développement des infrastructures de transport dans les pays, même pendant la pandémie de COVID-19. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Yasashiku ochiru kono ha 僕は空っぽで君に触れる心がふと温かくなる僕は手をつなぐ時は止まらず全てをそっと押し流した dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat ku saat itu takut mencari makna tumbuhkan rasa yang sesakan dada kau datang dan pergi Oh begitu saja Semua ku terima Apa adanya Mata terpejam dan Hati menggumam Di ruang rindu Kita bertemu Boku akarapode
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps pour l'émission des magazines culturels. Vous êtes avec moi, Audrey, et je vais vous présenter la danse Pirian de Sumatra occidental. Chers auditeurs, la Direction générale de la Poste et des technologies de l'information du ministère indonésien de la communication et de l'information, ainsi que la Direction générale de la culture du ministère indonésien de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie ont convenu de choisir la danse Jatilan de Yogyakarta et le Pirian Sulwa, c'est la danse de l'ouest de Sumatra, en tant que représentant de la richesse culturelle des danses indonésiennes, en tant que deux danses traditionnelles de la série des timbres du premier trimestre 2021. La sélection des deux danses est considérée comme représentant les trésors, l'unicité et la diversité des cultures qui se sont répandues en Indonésie. De plus, la danse Jatilan de Yogyakarta et la danse Pirian de l'ouest de Sumatra ont été inscrite au patrimoine culturel immatériel de la Tunisie. Chers auditeurs, la danse pirien ou pirin, c'est la danse des assiettes, est une danse typique de Minangkabau dans l'ouest de Sumatra. Selon l'histoire, la danse pirin a été créée pour montrer la gratitude des gens envers les dieux en présentant des offrandes sous la forme de plats délicieux apportés par de belles filles. Cependant, avec l'entrée de l'islam dans la région malaise, la fonction de la danse pirien n'était plus destinée à adorer les dieux mais aux rois et aux fonctionnaires. Avec le temps, la danse pirien n'est pas seulement montrée pour le roi, mais aussi pour les mariés pendant un jour. Aujourd'hui, la danse pirien est généralement exécutée lors des mariages accueillant des grands invités, des spectacles artistiques et d'autres cérémonies traditionnelles. En général, le mouvement de la plate danse consiste à poser deux plaques sur deux pommes, cité du site du ministère indonésien des Affaires étrangères. Les danseurs balancent la plaque dans des mouvements rapides, entrecoupés de tintements d'une plaque ou des deux anneaux ou doigts du danseur contre la plaque qu'il porte. À la fin de la danse, généralement, les assiettes apportées par les danseurs sont jetées par terre et les danseurs vont danser sur les assiettes cassées. Ils ont dansé, sauté de haut en bas et se sont roulés en portant des assiettes sur du verre brisé. Fait unique, les danseurs n'ont pas été blessés du tout. Et les assiettes qu'ils transportaient ne sont pas tombées. Le nombre de danseurs est généralement impair, composé de 3 à 7 personnes. Les danseurs portent des vêtements aux couleurs vives, avec des nuances de rouge et de zones dorées et un couvre-chef. La danse est accompagnée d'une combinaison d'instruments de musique talempong et salouan ou bien flûte. Le tempo de la musique est d'abord doux et régulier, puis change progressivement pour devenir plus rapide. Bon, cher auditeur, c'est tout l'émission de Magazine Couture. International de Voice of Indonesia 2021. Voice of Indonesia organise à nouveau un quiz. C'est Quiz International de Voice of Indonesia 2021. Gagnez des prix attractifs et des prix de consolation de Voice of Indonesia. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web www.voinews.id. Bonne chance!
Setiap ku menetap ini. sampai ku lanjut usia. Tak mungkin ada yang bisa memisahkan, hanya denganmu kan ku habiskan waktuku. Nikmati indah cinta, kisah kita kan abadi selamanya.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et bientôt c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur intitulée « Des étudiants de l'UGM transforment les déchets cutanés de Salak en bonbons antidiabétiques ». Vous êtes avec moi Audrey. Chargé tard, quatre étudiants de l'UGM ont réussi à transformer les déchets de peau de Salak en bonbon sûr, riche en nutriments, y compris un antidiabétique appelé Salaka Soft Candy. Aulia Nouraini Holiso, une étudiante développant des déchets d'écorce, a déclaré que l'idée initiale de fabriquer les bonbons a commencé lorsqu'elle a vu le sort des agriculteurs de Salak qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19, en particulier les agriculteurs de Salak à Surumbung, Magelang. Depuis la pandémie, les agriculteurs de Salak de la région ont connu une baisse des revenus de la vente de Salak. Ensuite, Olia et ses trois collègues ont essayé de trouver une solution pour transformer les fruits du Salak en produits transformés durables ayant une valeur économique. Ils utilisent le fruit ainsi que l'écorce pour être transformés en sucreries saines et sans danger pour la consommation, notamment pour prévenir le diabète. Serge Delitard, d'après certaines publications, il est indiqué que l'écorce de salade contient des substances bioactives telles que des flavonoïdes, des composés phénoliques, d'autres substances actives qui fonctionnent comme des antioxydants. Comme on le sait, le diabète sucré constitue toujours une menace pour la santé publique dans le monde. Les données de l'OMS ont indiqué qu'en 2014, il y avait 420 millions de personnes atteintes de diabète dans le monde. Et il est prévu qu'en 2045, il atteindra 629 millions de personnes dans le monde si aucune intervention n'est menée. Par conséquent, ces quatre étudiants préparent des aliments sains et ont un contenu antidiabétique. Ils fabriquent des bonbons à partir de jus de fruits et d'extraits d'écorce. Dans sa fabrication, 38% de miel pur est ajouté pour ajouter un goût légitime. La sélection des miels comme édulcorant ajoute pas seulement au goût sucré, mais le miel contient des antioxydants qui agissent comme un stimulant immunitaire pendant une pandémie. Dans un seul emballage, Salaka Soft Candy contient des antioxydants, des flavonoïdes et des composés phénoliques. En outre, il contient également des protéines et de la vitamine C. Les produits Salaka Soft Candy ont maintenant été lancés sur le marché. En dépensant 8000 de roupies, vous pouvez obtenir un paquet de 50 grammes de bonbons contenant les avantages d'un antidiabétique sucré. Ce bonbon se présente sous forme de bonbons mouleux au goût frais et délicieux. Bon, chers auditeurs, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku. Oh cintaku, biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh, bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Semoga kamu memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson des Karungut modernes de la région du Kalimantan central intitulée Turus Janji. Cher ami, cette chanson raconte la promesse d'un couple d'amoureux qui navigueront ensemble dans un lien de mariage. La chanson a été réarrangée avec le genre de musique pop sans perdre ses éléments traditionnels, tout en incorporant un instrument de musique traditionnelle du Kalimantan central appelé la harpe. Ceci est fait pour que la musique sonne plus légère et soit facilement comprise par l'auditeur. Karungut lui-même est un art traditionnel du Kalimantan central en Indonésie, sous la forme de littérature orale ou également appelée pantun antoné. Le chant Karungut raconte les poèmes de la vertu en concoctant divers légendes, avertissements, réprimandes et avertissements sur la vie quotidienne. Bon, chers auditeurs, voici la chanson intitulée Turus Janji, chantée par Ujai Mura et Yeti. Bonne écoute. Thank you. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiceindonesia, d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.